Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur INPOWER, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la deuxième partie de nos échanges avec Roxane Nonc, la fondatrice du média Dear Lobbies. Après l'épisode de la semaine dernière, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à nous réclamer une deuxième partie, et comme, si vous avez suivi mes mésaventures que j'ai partagées en story sur Instagram, vous savez que mes vacances ont été annulées, je crois que la vie ne veut vraiment pas que je prenne de vacances, on a pu échanger à nouveau avec Roxane pour terminer notre conversation. Dans cet épisode, on aborde donc en profondeur le sujet de la pilule, de l'impact que ce petit comprimé a réellement sur notre corps, et du combat que Roxane mène aujourd'hui pour aider les femmes à en sortir. On parle aussi de la connaissance de notre corps, de nos émotions, et d'à quel point la vie d'une femme est rythmée par son cycle, ce qu'on découvre souvent à l'arrêt de la pilule, pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, on revient aussi sur le concept de la collapsologie, que l'on a abordé dans le premier épisode, et Roxane nous en dit plus sur comment elle imagine le monde de demain, et nous partage beaucoup de ressources pour que l'on puisse nous aussi nous éduquer sur le sujet. Si vous appréciez écouter ce podcast, pensez à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je ne vais pas vous les lire à chaque épisode parce que j'ai pas envie d'être spamante, mais sachez que je lis vraiment tous vos commentaires chaque semaine et ça me fait vraiment hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Roxane. Coucou Roxane.
Salut Louise, t'enregistres là?
Ouais, j'enregistre.
Très bien.
C'est parti.
Salut Louise.
Donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous avez sûrement écouté le premier épisode qu'on a fait avec Roxane. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter d'abord, hein, parce que sinon vous allez peut-être être un peu perdu. Mais du coup, pour remettre un peu les éléments dans le contexte, ça fait une semaine peut-être que certains d'entre vous ont oublié, même si je pense qu'on n'oublie pas trop la conversation qu'on a eue. Avec Roxane, on a parlé un peu hormones, un peu lobby, on a pas mal parlé d'histoire de Roxane, et ce qui l'a amené à aujourd'hui être militante et à avoir créé un média engagé, Dear Lobbies, notamment en faveur de l'environnement et pour la protection environnementale. Et ben Roxane nous a quand même partagé ce qu'elle sait, voilà, les ressources et ce qu'elle a étudié et ce qui l'amène à nous avoir expliqué dans l'épisode précédent du coup que on allait peut-être connaître un effondrement, qu'on allait très certainement connaître un effondrement. Et pas mal d'entre vous m'ont dit en fait on aimerait vraiment une partie 2 où peut-être on puisse savoir quoi faire, ou en tout cas quoi faire une fois qu'on sait ça, une fois qu'on peut plus faire semblant. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va aussi parler de la pilule, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé qu'on en parle, à la fois aussi sur ma dernière vidéo. Donc commençons peut-être par là, parce que comme ça, ça c'est fait, et après on peut partir dans tous les sens.
Parce que si on commence à parler du reste, on va
pas ils vont peut-être partir en cours de route, parce que ça les aura déprimés. Donc du coup, pour revenir là-dessus, je sais même plus exactement ce qu'on a dit dans l'épisode ensemble.
On a fait on a parlé peut-être, je sais pas, 10 minutes de la pilule. On a parlé très brièvement de mes arrêts, je crois.
Ouais.
Mais on va reprendre.
Reprenons. Donc toi, tu prends la pilule à 14 ans.
Je prends la pilule à 14 ans, alors que j'en ai pas besoin. En fait, donc j'expliquais la dernière fois que j'avais de la sécheresse autour du nez, donc j'avais le nez un peu rouge, et puis t'as 14 ans, t'es ado, t'aimes pas avoir des petits défauts, donc j'ai dit à ma mère, maman, j'aimerais bien voir la dermato, et donc j'y vais pour ça, vraiment juste pour ça, j'ai 14 ans, j'ai jamais eu de relation sexuelle de toute ma vie, et j'arrive dans le cabinet, elle me donne une crème, pour mon nez. Et puis elle propose à ma mère et à moi un médicament qui s'appelle la Diane 35, qui me permettra d'éviter la crise d'acné. Donc moi, j'ai 14 ans, j'ai déjà des potes qui ont de l'acné. Je dis, ah bah oui, j'en veux pas, évidemment, que je vais prendre ce truc. Mais tu vois, pas d'alerte, on nous dit pas ce que c'est. Et puis nous, on pose pas forcément la question, mais je pense qu'on était, surtout très confiantes, tu vois, c'est le corps médical et tu fais confiance.
Ouais.
Donc je commence à prendre ce comprimé. Et je commence à avoir des problèmes, mais en fait, pour chaque problème que j'ai, il y a des autres réponses. Donc, par exemple, je commence à avoir des énormes migraines, et dans le même temps, j'ai un accident au ski, et je fais un traumatisme crânien, je me retrouve une semaine à l'hôpital quand même. Donc, c'est très grave. Enfin, c'est très grave, j'ai pas de séquelles, mais c'est assez grave. Mais du coup, ça coïncide. Donc, les médecins, tous, me disent « ça vient de là ». Il n'y a pas un seul médecin qui a émis l'hypothèse que ça pourrait venir de ma pilule. Mais en même temps, à ce moment, je ne sais pas que c'est une pilule. Donc, tu vois, je ne pose pas non plus la question. J'avoue que je prends ce truc et je me dis juste « ouais, j'aurais pas d'acné ». Donc, il y a ça, je commence à manger beaucoup, vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le soir, en rentrant du lycée, c'est le lycée, non, c'est peut-être le collège encore. Bref, lycée-collège, je me fais des tartines, mais avec une baguette entière. Et je mange, et je me dis, mais c'est quoi ça? Et bah évidemment, tout le monde me dit, c'est l'adolescence. Je me dis, bon, ok, c'est peut-être l'adolescence. Donc tu vois, il y a des réponses à tout. Bah évidemment, je grossis, j'étais de nature très fine. Je pense que j'ai pris 10 kilos en un an. Donc, alors je mangeais, effectivement, et c'était l'adolescence. Mais tu vois, moi, il y avait quand même des incohérences. Je me disais, c'est à bon dos l'adolescence, tu vois.
Ouais.
Donc il y a eu ça, je commençais à avoir des douleurs dans les jambes, je commençais à avoir des épisodes dépressifs. Donc voilà, j'ai 14 ans, le temps passe, à 17 ans je pars aux États-Unis. Donc j'ai mon bac à 17 ans, je pars aux États-Unis, et à ce moment-là, je veux continuer à avoir une belle peau, donc je demande à ma mère, je sais plus si c'est moi ou c'est ma mère qui va à la pharmacie, et là c'est la pharmacienne qui nous dit qu'elle ne peut pas nous délivrer plus de tant de plaquettes, parce que c'est une pilule contraceptive. Et là, je me dis quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Non. Donc c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait c'est une pilule, que effectivement ça a un effet contre l'acné, mais c'est contraceptif. Et du coup je me dis, attends, c'est pas anodin que la pharmacienne ne veuille pas me donner autant de plaquettes, tu vois, c'est pas un médicament classique, tu vois. Bref, je finis quand même par les avoir, je vais aux États-Unis, ma vie est merveilleuse là-bas, je m'amuse comme je me suis jamais amusée et j'ai des épisodes dépressifs. Mais c'est bizarre parce que tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi, tu vois? Alors qu'il se passe rien. Et c'est là qu'en fait tu te dis, mais il y a un souci parce qu'il y a rien qui va mal. Et je m'enfermais dans ma chambre. J'étais sur Miami Beach, j'avais plein de potes, je pouvais sortir comme je voulais. Et je m'enfermais des jours, voire des semaines dans ma chambre. Je sortais vraiment pour manger. Et j'étais là et je regardais Sex and the City à la télé, tu vois, je me disais au moins il faudrait que ça me serve à quelque chose ces épisodes, donc je mettais les sous-titres sur ma télé et je me disais bah vas-y au moins j'apprends à parler anglais, tu vois, avec les sous-titres et tout. Mais ça, tu vois, c'était... Je me rappelle vraiment ces épisodes parce que autant parfois dans la vie il y a des choses qui vont pas, donc tu te dis que tu peux te raccrocher à quelque chose. Là il y avait rien qui allait mal, tout allait bien. Et je continue à grossir et tout. Je me rappelle que mon petit frère, il vient me voir à Noël. Je suis arrivée aux États-Unis en septembre et mon petit frère vient me voir à Noël avec ma famille. Et mon petit frère, qui n'a aucun tact, me dit « t'es grosse ». Et je me dis « ok, ouais, il y a un problème quand même ». Donc oui, la nourriture là-bas, c'est pas terrible, mais je fais plein de sport. Et je grossis, tu vois. Donc voilà, les années passent. Il m'arrive, voilà, principalement les migraines. Les dépressions, tu sais pas d'où ça sort, les douleurs aux jambes, les essoufflements, et l'absence de libido. Et ça, je le vois comment? Parce que j'ai deux copains aux États-Unis. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est les Américains, donc pour moi, c'est... Ils m'attirent, évidemment qu'ils m'attirent, ces deux mecs. Donc, bien sûr, pas en même temps, mais là, la suite...
On juge pas.
De toute façon, on juge pas ça, mais bon, j'avais 17-18 ans. Donc, ouais, j'ai été avec un, 2 mois, et l'autre, 3 mois, je sais pas. Et puis, y en a un qui est très, très dans la religion, parce que là-bas, enfin, à l'époque, en tout cas, en 2004-2005, c'était comme ça. Et il me dit, bah, je coucherai pas avec toi, parce que moi, je veux coucher qu'avec la femme avec qui je me marierai. Moi, je lui dis, t'inquiète. En fait, j'ai pas envie, tu vois. Mais c'est des trucs dont je me rendais pas compte. Je me disais juste, bah voilà, je suis juste très respectueuse, je n'ai pas envie. Et pendant toute l'année aux États-Unis, pas un seul mec. J'ai couché avec personne. Et c'était très facile pour moi. Et en fait, les années passent. Et petit à petit, je me dis qu'en fait, tout ça, c'est pas normal, tu vois. Et arrivent mes 21 ans. Et je suis hôtesse de l'air. Je deviens hôtesse de l'air. Et du coup, je dois arrêter ma pilule parce que j'arriverai pas à la prendre à heure fixe. Donc, je fais pas des longs courriers. Je fais des moyens courriers. Mais en fait, mon planning fait que j'ai 3 jours en... On appelle ça early. C'est-à-dire que je commence à 5h du matin, 6h. Et 3 jours après, où je termine à 1h, minuit. Donc, du coup, c'est clairement pas possible de prendre quelque chose à heure fixe. Et là, je mets un implant. Je mets un implant. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai demandé à un médecin d'arrêter la pilule. Il n'a pas du tout su me dire ce qu'il y avait d'autre comme contraceptif. Et j'ai trouvé toute seule l'implant sur Internet. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on me mette l'implant. J'ai mis l'implant. Et là, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des migraines qui n'étaient plus les migraines que j'avais avant. C'était tellement fort que je pouvais... J'ai envisagé plusieurs fois de me... Pas de me tirer une balle dans la tête, mais de... Bah d'arrêter, j'avais... Enfin, c'est pas que j'étais suicidaire, mais j'avais tellement mal, je savais plus quoi faire, en fait. Je me disais, si je m'éclate la tête contre un mur, ça sera... Au moins, ça me soulagera, tu vois. Et ça, je le disais au médecin. Tu vois, les mois ont commencé à passer avec cet implant. J'en parlais au médecin, on me dit, non, attends, tu verras, ça va évoluer. Ok. Bon, il y a eu les migraines, j'ai commencé à avoir énormément d'acné. J'avais jamais eu d'acné de ma vie. Jamais. Ça a commencé à pousser... Et je me disais, ok, c'est peut-être l'air de l'avion, parce qu'entre-temps, ben, du coup, je travaille dans l'avion. C'est peut-être la pression, c'est peut-être la nourriture qu'on nous donne dans l'avion. J'imaginais tout, sauf ma contraception. Mais je me disais, c'est quand même au moment où j'ai arrêté ma pilule et que j'ai mis ce truc que j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à perdre des cheveux. Et c'était problématique dans le sens où j'étais hôtesse de l'air. Dans notre contrat, vraiment, à l'époque en tout cas, on a se maquiller comme ça, se coiffer comme ça. Du coup, je devais être présentable et je me tartinais le visage de fond de teint. Mais vraiment, tu vois, genre, je me mettais du fond de teint liquide, après du fond de teint poudre. Mais ça se voyait quand même, parce que ça fait des bosses, hein, toi-même, tu sais, quand t'as des... Enfin bref, c'était infernal, je commençais à perdre confiance en moi, c'était horrible. Je voyais qu'il y avait des regards dans l'avion, parce que, ben, t'es au-dessus des nuages, donc il y a forcément du soleil. T'as tous les hublots de chaque côté. Enfin, moi, souvent, je me cachais limite dans mon trolley. Je demandais toujours à être à la position à l'arrière, parce qu'il y a une position où tu restes plutôt à l'arrière, parce que tu fais l'embarquement et tout. Je me cachais. Petit à petit, mon comportement changeait, parce que je me cachais. Et puis après, bah, mes amis voulaient sortir. Je disais non. Alors que j'avais envie, c'est juste que je me sentais mal. Je faisais attention à pas voir les gens en plein jour, à pas me mettre sous des lumières. Enfin, je commençais à devenir... Mais... totalement psychopathe, parce que je ne me supportais plus. Je me suis dit, il faut que j'enlève ce truc. Donc je pense que j'ai tenu 6 mois. Je retourne voir un médecin, il me dit toujours non. J'ai un moment, enfin, je suis un cobaye, c'est quoi l'histoire là? Je vous dis que j'en peux plus, je pleure, je suis en train de pleurer devant vous. Vous voulez pas me l'enlever? Donc je crois que 2 semaines après, un week-end, mon père m'a emmené aux urgences et l'infirmier qui m'a enlevé ça a été hyper gentil. Il m'a dit, vous n'êtes pas la première en fait à qui on enlève ça en urgence. Et il me disait, mais ça c'est plutôt fait pour les personnes qui n'ont pas toute leur tête et qui ne pensent pas à prendre une contraception. Et il m'a parlé d'hôpitaux psychiatriques ou de choses comme ça. Je me dis, mais comment on peut donner ça à des jeunes filles en fait en sachant qu'on n'a même pas de recul. Et il me disait qu'en plus la libération des hormones via ce petit bâton, ça a une taille d'allumette, ça fluctue en fonction de la chaleur. Enfin, de la température et de la pression. Je suis hôtesse de l'air. Il y a un matin, je suis à Marrakech, il fait 35 degrés. Le lendemain, je suis à Cracovie, il neige. Et je fais quatre atterrissages par jour, tu vois. Donc c'était complètement pas pertinent pour moi. Mais bref, encore une fois, je me débrouille toute seule. C'est moi qui prends mes décisions toute seule. Quand j'en parle au médecin, je me fais des films. Tout est dans ma tête. Enfin, c'est ça, en fait, le gros problème. C'est que les médecins... Je suis pas contre la médecine. Maintenant... souvent on me reproche de donner des conseils alors que je suis pas médecin, mais à un moment quand t'as personne en face de toi, bah ouais, j'assume en fait de donner des conseils parce que il y a des milliers, voire des centaines de milliers de femmes qui sont perdues. Donc je suis passée par là, je continuerai à donner des conseils qui partent de ma propre expérience tant qu'il n'y aura pas de solution en fait.
Ouais.
Donc voilà, donc premier arrêt, catastrophe, je reprends la pilule en sachant que voilà, je suis consciente qu'il y a un problème. Ça s'arrange. Ma belle peau revient. J'ai pas de cicatrice, j'ai de la chance. Mais mes migraines reviennent, enfin, mes migraines continuent en tout cas, mes essoufflements reviennent, mes épisodes dépressifs aussi, donc je sais qu'il y a un souci. Et en fait, bah, je vais la faire courte parce qu'après, c'est toujours la même chose. J'essaye, au final, de l'arrêter 3 fois.
Mais donc alors, moi, ça m'intéresse, j'aime bien les détails. Mmh. Là, t'as 21 ans, tu la reprends donc à 21 et demi, quoi, à peu
ouais,
près.
Ouais, à peu près, ouais.
Tu tiens combien de temps avec ?
Bah en fait, à chaque fois, c'est 2 ans.
Donc,
je l'arrête à 21 ans, je reprends, je l'arrête de nouveau à 23 ans.
Et tu te dis quoi, 23 ans, c'est facile, pourquoi tu veux réarrêter ?
Bah, je veux réarrêter en me disant, cette fois, je prends plus rien. Je mets pas un implant.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, je veux juste voir si mes problèmes, ça vient de l'implant ou juste de l'arrêt.
Ouais.
Donc, je l'arrête, et là, je prends rien. Et ça recommence. Plein d'acné, mes cheveux qui tombent, un ascenseur émotionnel. Donc là, je comprends évidemment que oui, c'est ça le problème. C'est vraiment ma pilule. Je la reprends donc à chaque fois, donc 2 ans. Donc j'arrête 21 ans, 23 ans, 25 ans. À chaque fois que je la reprends, je me dis je vais réarrêter. Mais malheureusement, quand on dit on essaye d'arrêter, ça c'est peut-être que quelque chose que les gens comprennent pas. C'est que t'as tellement d'effets secondaires que tu la reprends parce que tu déprimes en fait.
Ouais.
Et surtout à cause de l'acné. Et encore, toi et moi, on a eu de l'acné. On a perdu des cheveux, mais t'as des femmes qui perdent mais énormément de cheveux et qui se retrouvent avec presque des alopécies, tu vois.
Mmh. Donc, ouais. Mais non, mais ça, enfin, parlons-en 2 secondes parce que je rebondis sur ce que tu dis sur la médecine. Moi, j'ai donc pris le parti de faire une série de vidéos parce que ça aussi, certaines m'ont demandé. Je vais pas juste faire un épisode comme j'ai fait la semaine dernière. Je vais en faire une série récurrente pour documenter ma tentative d'arrêt également. Mmh. Et il y a des personnes, bah, et généralement des internes en médecine ou des étudiantes en médecine qui ont dit ouais, enfin, il faut pas oublier que la médecine, c'est les seuls qui sont en droit, tu vois, de faire des ordonnances, on est aussi là pour aider les gens. Après, on n'est pas forcément formé pour et tout. Et en fait, c'est ce que je leur dis, c'est, tu vois, moi je dis pas genre la naturopathie ça remplace la médecine. Mmh. Oui, c'est une médecine complémentaire. Moi, juste mon point de vue en tant que citoyenne éclairée. C'est que toutes les personnes que je connais qui en sont sorties de cette merde et qui, pour la plupart, se consacrent maintenant à aider les gens par la naturopathie, c'est des personnes qui ont vécu ça et qui, du coup, peuvent aider. Parce qu'en fait, ils ont consacré leur vie à faire ça.
Ouais.
Alors que des médecins, des généralistes, des gynécologues qui voient des centaines et des milliers de problèmes chaque jour, ils sont malheureusement pas forcément les plus... c'est pas ceux qui ont le plus de connaissances pour pouvoir t'aider.
Mmh.
Et donc, c'est super. Il y en a qui sont quand même ouverts un peu, tu vois, la médecine alternative et tout, mais c'est pas la majorité des cas. Moi, je n'ai aucun amateur qui m'a aidée. Comme toi, on m'a dit antibiotiques, antibiotiques, ça marche pas, bah pilule Diane. Ok, très bien. Et
ouais,
en fait, après, il y a, bah voilà, j'allais te demander, t'as jamais pensé à le faire parce que
non.
Moi, j'ai quand même, enfin, du coup, rencontré pas mal de personnes là qui ont arrêté la pilule pour savoir comment elles s'en sont sorties et tout. Et bah t'en as quand même certaines pour qui Roaccutane a marché.
Ouais.
Et après c'est juste que c'est un traitement tellement lourd. Moi j'aurais pas envie d'arrêter pour refaire du mal à mon corps, tu vois.
Mais c'est ça.
C'est ça que tu t'es dit ?
Bah en fait pour la dernière fois où je l'ai arrêté donc à 28 ans, bah j'avais déjà le groupe sur Facebook et en fait je disais aux filles que j'allais essayer de m'en sortir en fait sans rien. Donc c'est pas que j'ai eu plus de force, c'est que les filles qui me suivaient m'ont donné de la force. Et je me disais, je suis un cobaye, tu vois. Je suis un cobaye et je vais essayer de m'en sortir sans ça. Ça, c'est le Roaccutane, en l'occurrence. Sachant que, le Roaccutane, c'est quand même interdit dans certains pays. Ça pousse à des tendances suicidaires. Enfin, c'est pas anodin. Et je sais aussi que quand il est question de problèmes hormonaux, le Roaccutane fonctionne pendant le traitement. Et ça peut... les problèmes peuvent revenir. Donc je me dis, attends, j'essaie déjà de me sortir de la pilule. Je vais pas me dégommer. Je sais que mon corps et mon organisme n'en peut plus.
Ouais.
Donc moi, je voulais juste être libre, en fait. Donc je voulais être libre. Et le but, c'était de plus rien prendre du tout.
Donc tu l'arrêtes à 21, tu la reprends après à 23 en te disant, je vais voir si mon corps fonctionne bien sans rien. Tu la reprends, à 25 ans, tu te dis quoi ?
À 25 ans, je la reprends et je me dis...
Tu l'avais arrêtée pourquoi, à 25 ?
Bah, en fait, je l'avais réarrêtée pour être encore une fois sûre, tu sais, comme
ouais.
Si... Je me suis... En fait, des fois, je me...
C'était un espoir fou, quoi.
Mais c'est un espoir fou.
Mais même moi, j'ai l'espoir fou, tu sais, parce que... Tu vois, il y a une fille sur ma vidéo, elle a commenté... Oh, moi, tu sais, j'ai pris la pilule Diane, je l'ai arrêtée, aucun problème, pas d'acné, pas de perte de cheveux. Et j'ai l'espoir fou que ça se trouve cette fois. Mais je me dis, en vrai, enfin, si tu fais partie des gens qui l'ont arrêté une fois, ça a été la merde. C'est pas en 3 ans que ton organisme pompe et dope.
Ouais.
tout va bien, tu vois. Ouais. Mais c'est, le pire, c'est que ma mère, elle a pris cette pilule. Mmh. Et c'est ma mère qui... Enfin, non, mais en plus, ma mère, on l'a pas vraiment conseillée. Elle m'avait juste dit, elle est forte, mais elle m'a pas dit non, tu vois. Mmh. Mais parce qu'elle l'a prise, pareil, problème d'acné, etc. Et elle a arrêté, elle a pris 10 ans. Elle a arrêté à 30 ans, pas de problème. Les règles, le prochain mois, elle tombe enceinte, nos sous, c'est tout.
Bah après, les organismes sont tous différents. Ouais. Mais après, t'as... Enfin, moi, l'acné, c'est horrible. Mais pour moi, c'était quand même un signal, tu vois.
Ouais, ça
reste un
signal.
Je me disais que tant que j'avais de l'acné, c'est que mon corps avait un problème. Donc, c'est horrible dans un sens, mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui en ont, voyez ça comme la manifestation qu'il y a quelque chose à régler dans votre corps. Et je me disais ça, donc j'observais. Mais donc, du coup, à 25 ans, j'ai arrêté en mode espoir fou, comme tu dis, mais aussi parce que j'étais confrontée à des médecins qui me disaient que tout était dans ma tête. Tu vois, à l'époque, donc 25 ans, c'était, ça fait 8 ans, la pilule, personne n'en parlait encore, et j'étais face à des médecins qui me disaient que j'étais folle, donc du coup, on me disait, non mais arrêtez la pilule, c'est rien. Du coup, je l'ai réarrêtée pour être bien sûre, bah, évidemment, tous les symptômes sont revenus, donc je l'ai arrêtée, je l'ai reprise, et la dernière fois que je l'ai prise, je me suis dit, par contre, cette fois, c'est la dernière fois. Cette fois, c'est fini, en fait, je la reprends pour retrouver confiance en moi, avoir de nouveau une belle peau, mais la prochaine fois que je l'arrête, c'est fini. Mais j'attendais de trouver un truc, tu vois, je savais pas. Il fallait que je fasse un truc différent. J'ai réfléchi. Donc là, cette fois-ci, je l'ai prise de peut-être 2 ans et demi, je sais pas. Et un jour, un beau jour, vraiment, je me réveille et je me dis, j'ai trouvé. J'ai trouvé, je suis une droguée de la pilule. Je vais faire un sevrage. Mais vraiment, mais même, je me suis même voulu de penser ça. Je me suis dit, mais en fait, t'es vraiment droguée à ce truc, quoi. Puisque t'arrêtes... Le problème, c'est que t'arrives plus à l'arrêter. Donc, sèvre-toi. Et donc là, j'ai commencé à chercher les coupes médicaments. Je suis allée dans des pharmacies. Et dans des pharmacies, ils en donnaient à l'époque gratuitement. Enfin, c'était des goodies, hein, de laboratoire. Et j'ai commencé à couper mes comprimés. J'ai commandé des gélules végétales sur Internet. Et j'ai fait mon micmac, et donc pendant 6 mois j'ai fait un sevrage. Les 2 premiers mois c'était 3 quarts pilule, les 2 mois suivants c'était un demi, et les 2 derniers mois c'était un quart. Et j'ai arrêté le 18 août 2015. Voilà, c'était ma dernière pilule.
Et toi, dernier quart de pilule.
Ouais, et toi tu as connu ça il y a pas longtemps, je sais. Et ce jour-là j'étais. Oh. Je sais que c'est fini, que j'en prendrai plus jamais, mais je sais aussi... Enfin, j'ai très peur de ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et j'ai eu moins d'effets secondaires. Je sais pas si j'en ai eu moins parce qu'il y avait un effet placebo et parce que je me disais que cette fois-ci, ça irait. Ou est-ce que c'est vraiment le sevrage qui a agi? Après, pendant le sevrage, j'essayais d'être très objective et de ressentir les choses dans mon corps. Et dès qu'en fait, je changeais de palier, tu vois, dès que je baissais un peu la dose d'hormones, je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps. Et notamment sur ma peau, j'avais la peau qui devenait un peu grasse, les cheveux aussi qui devenaient un peu gras. Donc je sentais quand même que mon corps réagissait à la baisse d'hormones. Donc je pense que ça a été plus doux pour mon corps dans tous les cas. Après, est-ce que ça a vraiment eu un effet? Je sais pas. Je sais que pour certaines filles, ça a eu un effet tel qu'elles n'ont même pas eu d'effet rebond. Alors l'effet rebond, c'est ce qu'on appelle... c'est tout ce qui englobe les effets post-pilule dont on parle. Donc... acné, chute de cheveux, tout ça, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi crise d'angoisse, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément vécu, toi et moi. Donc...
Mais moi, ça, c'est... je voulais quand même en parler, parce que tu disais que tu as vécu des épisodes dépressifs sous pilule. Mm. Moi, je touche du bois, je n'en ai pas connu, et c'est aussi ça qui m'a fait reprendre la pilule à l'époque où je l'ai arrêtée, c'est que moi, à l'arrêt, au-delà de la perte de cheveux, de l'acné, qui joue évidemment énormément sur le psychologique, j'étais pas bien du tout.
Mais il y a plein de filles.
J'étais, je sais, et ça, c'est ça qui m'inquiète, parce que du coup, t'es mieux sous pilule, tu vois? Et c'est ça qui me fait flipper. Alors après, il faut dire que c'est temporaire.
Alors, ouais.
Mais parce que, putain, j'étais vraiment au bout de ma life, tu vois?
Eh ben, je pense qu'en fait, je l'ai vécu, mais je l'ai pas vécu de la même manière. Parce que moi, très vite, j'ai ressenti qu'en fait, je vivais la puberté que j'avais pas vécu. Mmh. Et tout ce que je vivais, ça ressemblait à l'adolescence, en fait. Tu vois, l'ascenseur émotionnel, toute cette fragilité, enfin, cette sensibilité que tu connais à l'adolescence, moi, c'est un truc que j'avais pas vécu. Et en fait, en me retrouvant sans hormones, j'ai eu l'impression de vivre une adolescence. Mais ça allait même jusqu'à un moment où je parlais mal à mes parents. Je vivais l'adolescence. Donc toi, t'as peut-être ressenti ça comme des épisodes hyper bizarres. Moi aussi, mais je vivais ça en mode expérience. Mais en fait, c'est simple. Disons que tes émotions, elles sont un peu à plat sous pilule. elles sont un peu à plat. Donc moi, j'avais aussi des épisodes dépressifs. Et quand je l'ai arrêté, parce que ça a commencé à être les montagnes russes. Mais en fait, petit à petit, tu t'habitues à ça et tu te rends compte qu'en fait, t'es vraiment cyclique. Nous, femmes, on est cycliques. On a un cycle. Et bah, le cycle, bah, ça fluctue. T'as des moments où tu te sens bien, d'autres où tu te sens pas bien. Et en fait, quand t'arrêtes la pilule, ces moments sont vachement plus denses et plus intenses. Mmh. Et d'ailleurs, pour ça, il y a deux livres. Il y a Lune rouge de Miranda Gray, qui explique les fluctuations d'humeur, etc., dans le cycle, et qui explique même comment les utiliser. Tu vois, par exemple, moi, sous règles, quand j'ai mes règles, certes, j'ai plus tellement d'énergie, mais je peux écrire vachement plus facilement parce que je suis plus dans l'introspection et tout. Et tout ça, en fait, si on te l'explique pas, et si tu l'as pas connu parce que t'as été sous pilule très jeune, c'est très déstabilisant. Après, moi, c'était comme ça. Bon, c'était pas forcément facile à vivre, mais ça allait. Après, je sais qu'il y a des filles qui ont des énormes crises d'angoisse. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça passe. Mmh. Il y a un moment, ça se régule. Mais évidemment, en fait, le système endocrinien régit plein de choses dans notre corps, y compris les émotions.
Et le deuxième livre auquel tu pensais ?
C'était Miranda Gray aussi, et ça s'appelle « Femme optimale ».
Ok, parce que moi, j'étais en train de chercher là, celui qu'on m'avait conseillé, que j'ai pas lu, mais que j'ai prêté, on va me le rendre. C'est « In the Flow » de... Comment elle s'appelle ? Attends, je l'avais. Alissa Vita.
Ah, je connais pas.
Et c'est elle qui a aussi écrit « Woman Code ».
Ah ouais, okay.
Et en fait, elle a théorisé toute une... Je vous ferai un retour, hein, si jamais vous voulez, sur le livre. Elle a théorisé tout un mode de vie qui s'appelle Flow Living.
Ouais.
Et en gros, tu vois, c'est en gros essayer, en effet, de comprendre son cycle, comprendre sa vie de femme. Et bref, elle est spécialisée dans la résolution de problèmes hormonaux et notamment dans un truc dont on peut parler aussi, le syndrome des ovaires polykystiques.
Ouais.
Parce qu'à l'arrêt de la pilule... on a tout un peu l'impression qu'on l'a. Enfin,
ouais,
moi,
ouais.
Moi, j'étais sûre, hein, je tapais les symptômes sur internet, c'est exactement ça. Je me suis
j'ai fait des échographies et tout.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des échographies et je crois qu'au final, je sais même pas si j'ai eu le retour de l'échographie. Enfin, j'étais tellement persuadée que je l'avais, puis j'avais repris la pilule, donc en fait, on s'en fout. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est aussi un énorme point de flou, quoi. Parce que les médecins, ils vont te dire, non, mais c'est juste que votre pilule cachait le SOPK. Moi, je pense que.
Elle
ça donne le SOPK et que potentiellement certaines ont juste les symptômes, que ça se résorbe après. En fait, elles n'avaient pas du tout le syndrome polykystique. D'autres l'ont, le développent. Je sais pas, toi, comment tu t'es sentie ? Est-ce que tu sais en gros ce qui permet de savoir si on l'a vraiment ou pas ? Parce que c'est très flou, quoi.
Bah, moi, je pense que dans tous les cas, en fait, il faut attendre. Il faut attendre, je sais pas, je dirais au moins 6 mois, 1 an que ton corps se régule. Et encore, tu vois, moi, mon corps, il s'est régulé. Même encore maintenant, il se régule, tu vois, alors que ça fait 5 ans et demi que j'ai arrêté. Je pense que juste après la pilule, c'est pas forcément le bon moment, parce que il y a plein de changements qui se passent. Vraiment, attends, si je dois vraiment te dire à quel moment je me suis sentie vraiment mieux après la pilule, ça a bien mis 3 ans.
Putain.
3 ans.
Mais tu vois, moi, je trouve ça déprimant.
Ça l'est.
C'est vrai que moi, je suis en train de tout faire... pour que ça soit vraiment le plus rapide possible. Enfin, tu vois, tu vas nous dire après ce que t'as fait, mais bah, du coup, moi, je vais voir une ostéopathe que tu m'as conseillé.
Ouais.
Je fais de la méditation, je me suis mise au yoga, donc ça, c'est pour toute la partie stress. Je suis en train de faire des recherches aussi sur des adaptogènes. Big up à Stéphanie M6 qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle, les adaptogènes l'avaient énormément aidé. Alors, c'est plus au niveau digestif, mais bon, je vais faire des recherches sur les adaptogènes qui ont apparemment un pouvoir hyper puissant. Même au niveau hormonal, etc. Je suis suivie du coup par un naturopathe qui est spécialisé dans la régulation hormonale et qui te donne du coup des herbes et des plantes qui t'aident à réguler les hormones. Je vais peut-être aller voir aussi une kinésiologue, je sais pas si tu connais, mais.
Tu en as parlé l'autre fois.
J'en ai parlé, ouais. Donc bref, et l'alimentation joue aussi énormément, donc je vais aussi faire beaucoup de recherches là-dessus parce que je sais que les hormones sont très liées à l'alimentation, notamment aux lipides, il faut prendre beaucoup de bonnes graisses, de poissons gras, etc. Est-ce que t'avais mis en place tout cet arsenal ou pas ? Parce que, ben, franchement, moi, je trouve quand même que t'as énormément de force, parce que moi, je sais pas si j'arrive à me dire que j'ai passé 3 ans de merde, tu vois.
Bah, en même temps, je me disais, c'est soit je le fais maintenant, soit je le ferai plus tard, tu vois.
Ouais, c'est repoussé.
Et juste, je suis dedans, donc je vais pas... Non, c'est bon, j'ai déjà essayé d'arrêter 3 fois, je vais pas recommencer. C'est juste qu'à un moment, tu vois, plus les mois passent, plus tu te dis, ok, vas-y, j'ai réussi. C'est... Mais en fait, c'est vraiment comme un drogué. Tu te dis, je m'en sors, petit à petit.
Ouais, ouais.
Les mois passent et tu te dis, je recommencerai pas. Je plongerai pas dedans. Après, moi, à l'époque, donc il y a 6 ans, quand j'ai commencé à l'arrêter, j'ai fait l'erreur de l'automédication. Donc, Je voyais pas de naturopathe, je savais même pas que ça existait. Je voyais personne, j'étais juste toute seule face à des médecins qui me disaient que j'étais folle et qu'il fallait que je reprenne des antibiotiques qui allaient me bousiller le ventre, que je reprenne la pilule ou que je prenne Roaccutane. Donc j'étais toute seule. Donc moi j'ai fait la recherche aussi. Et pour te dire, enfin c'était très drôle. Non, c'est pas drôle du tout.
Si,
je prenais mais tellement de compléments alimentaires que quand je suis partie en vacances à Bali avec mon copain, j'avais peur d'être arrêtée à la douane et qu'on me prenne pour une dealer parce que j'avais des sacs énormes de pilules de toutes les couleurs. Et là, mon copain, il m'avait dit, mais t'es complètement folle, quoi. Je lui disais, mais tu te rends pas compte, en fait. Tu te rends pas compte de ce que j'ai déjà vécu.
Ouais.
C'est ma dernière tentative d'arrêt. Et je pense que je faisais n'importe quoi parce que je prenais tout en même temps, je devais me déglinguer le bide encore plus. Mais ça me rassurait.
Ouais.
Je me disais, je fais quelque chose,
ouais.
J'essaye. Et donc, ne tombez pas dans l'automédication, surtout pas. Il y a des choses qui fonctionnent pour des personnes et pas pour d'autres. On a toutes et tous des organismes différents. Voyez quelqu'un de compétent. L'idéal, c'est vraiment de voir un médecin allopathique, donc classique. C'est l'idéal. Après, est-ce que maintenant, il y a des... Enfin, tu disais qu'il y avait de plus en plus de médecins qui étaient ouverts à tout ça. Donc, j'espère qu'il y en aura pour les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment le truc le plus confortable. Mais entourez-vous aussi de médecine alternative. Et tu te disais tout à l'heure, pour moi, c'est la seule chose qui a fonctionné. Les seules choses qui ont fonctionné sont les médecines alternatives. Et ça pose un autre problème, c'est que c'est pas remboursé.
Mmh. Sauf, alors, avec la mutuelle, nous tous...
Ah oui.
Et c'est pas une sorte de sponsorisation ou quoi, même si je vais accepter une collaboration avec eux,
ouais.
Parce qu'ils remboursent la médecine. Enfin, ils remboursent, je crois que c'est une ou deux consultations de naturopathie ou de médecine alternative par an. Donc c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien.
Et surtout que normalement, en fait, c'est tu fais pas tellement plus de consultations. Enfin, moi, je sais que je vous conseillerais, vous inquiétez pas, des personnes, parce que je sais que c'est le nerf de la guerre. Il y a déjà deux personnes que je peux conseiller, c'est naturopathe Kelly et Marion Nutrition. Et je sais que souvent elle c'est une première consultation et ensuite une deuxième consultation de suivi avec des ajustements si besoin, mais la première consultation on fait déjà trois quarts du taf.
Ouais.
Et c'est des personnes qui se basent, et c'est là où j'allais vous dire aussi pour essayer de trouver une ou un bon naturopathe, il faut qu'il se base sur votre bilan hormonal. C'est-à-dire que moi mon naturopathe il m'a donné une batterie de tests à faire, j'en ai genre 19. Et parce qu'en fait, ouais. Mais parce qu'en fait, il va voir là où il y a des défaillances. Et si jamais je suis trop sensible aux androgènes, il va me donner des plantes qui régulent ça. Si jamais j'ai trop de testostérone, ce sera autre chose. Si jamais c'est pas assez de progestérone, ce sera autre chose. Et c'est là où tu dis, en effet, ne tombez pas dans l'automédication. Ouais. Ça aide de faire des recherches, tu vois, pour juste savoir. Mais il faut toujours que ce soit un praticien vraiment compétent qui vous dise quoi faire, sinon vous prenez trop de risques, quoi. Mais c'est là où, moi, je suis rassurée de naturopathe, parce qu'il se base vraiment sur... on va voir. Après, j'espère juste que j'aurai mes règles, parce que c'est des tests à faire le deuxième et troisième jour de mes règles. Donc, parce que c'est aussi ça, l'enjeu, parce qu'on parle des problèmes physiques qui ont un impact psychologique, mais il y a aussi l'impact de la fertilité, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas retrouvé mes règles quand j'ai arrêté la pilule. Alors toi, tu les as retrouvées, je crois.
Moi, direct.
Donc comme quoi, c'est très différent d'un corps à l'autre.
Ouais, mais, et puis comme quoi, je peux avoir des méga effets d'un côté, et pour autant avoir mes règles. Et d'ailleurs, ma belle-sœur, je crois qu'elle a mis un an et demi ou deux ans à retrouver ses règles. Et elle est passée par des phases, vraiment des grosses phases de dépression après. Mais elle va mieux.
D'accord.
Enfin, c'est pour ça.
Et elle prenait Diane aussi ou...
Non, c'était encore pire, je crois. C'était,
Ah, il y a pire.
Ouais, il y a pire parce qu'il y a les mêmes molécules que Diane.
Androcure.
Dosées différemment. Donc c'était pire.
Ne prenez pas ce médicament.
Ouais, faites gaffe, faites très attention, quoi. Non, elle ça a été, mais ça a été un bordel. Mais.
Et qu'est-ce qui l'a aidé parce que. Bah, je sais pas si pareil.
La méditation, en fait, ça peut être plein de choses.
Ouais.
Après, il faut faire attention. Moi, j'ai pas envie de donner trop de conseils parce que je sais que quand on commence à avoir trop d'infos, on finit par être tellement stressé que c'est pas du tout productif. Et j'ai envie de dire, tout à l'heure, tu me disais, mais qu'est-ce qui m'a aidé ? Je pense que j'ai fini par aller bien au moment où je me suis laissée tranquille. Parce que pendant longtemps, mais c'est parce que j'étais pas accompagnée, pendant longtemps, j'avais un régime alimentaire hyper strict. En fait, ma vie, toute ma vie, c'était m'en sortir de cette pilule. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça nous impacte dans notre vie. Ma vie entière était consacrée au fait que je voulais me sortir de ça. Et mon mec pétait un câble. Enfin, j'ai perdu des relations à cause de ça, parce que c'était ma vie. Je parlais de ça tout le temps. Et petit à petit, je me suis rendu compte que avoir un bon régime alimentaire, oui, c'est important. Mais craquer de temps en temps, c'est important aussi. Avoir une vie sociale, c'est important. Et maintenant que je me sens plus forte, je m'en veux d'avoir refusé des vacances, des sorties. Même, je me rappelle même avoir rencontré des mecs qui s'en foutaient de mes boutons, mais moi je m'en foutais pas, ça me gênait. Je me suis empêchée de vivre. Franchement, j'ai perdu mais tellement d'années dans ma vie. Et ça, les hommes ne comprennent pas parce qu'ils sont jamais passés par là. Et il y a des femmes qui comprennent pas parce qu'elles sont pas passées par là. Mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont se reconnaître. Soyez forts, soyez fortes, parce qu'on s'en sort. Et venez sur le groupe Facebook de discussion, c'est un groupe de parole. Voilà, qu'il y a rien de commercial dessus. Vous allez juste rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Et ça vous fera du bien et ça vous donnera de la force. Et surtout, étant donné que le groupe existe depuis plus de 5 ans, il y a toute la génération des femmes qui s'en sont sorties, qui restent là. Et moi, ça, j'adore. Il y a plein de filles qui s'en sont sorties et qui sont encore là. Et qui répondent encore aux personnes, aux nouvelles qui arrivent, en disant « T'inquiète, moi, ça fait 5 ans, je vais bien ». Moi, je trouve ça génial. Ça, ouais, ça prouve qu'on est impliqués et que la sororité est hyper présente. Parce que tu pourrais te dire, bah, voilà, elle va mieux, elle s'en va du groupe. Elle reste. Parce que mon groupe, bah, j'ai peu de personnes qui s'en vont. D'ailleurs, on est 5000 maintenant, à peu près. C'est énorme, 5000.
C'est énorme.
Ça, c'est juste les gens qui connaissent le groupe.
Ouais.
De bouche à oreille. Ouais. Parce que je fais pas... Enfin, j'en parle nulle part,
tu vois. C'est clair.
Et, enfin, bref, je pars dans tous les sens, mais... c'est un truc qui me touche et ça me touche d'autant plus que, enfin, par rapport à ma petite moi qui a perdu des années de vie clairement, et par rapport à toutes les femmes qui sont en train de passer par là, moi je rêve d'un monde où les jeunes filles pourront déjà découvrir leur sexualité sans hormones, parce que la libido c'est quand même un truc, hein. Enfin, je pense que ça, attends, il y a un livre de je sais plus comment ça s'appelle. C'est une sexologue. Le livre, ça s'appelle « Les trois cerveaux sexuels ». Et dedans, elle explique que clairement, la pilule a un impact dans la découverte de la sexualité. C'est Catherine Solano.
Ok, je t'en entends jamais.
Ça a un impact dans la découverte de la sexualité chez les jeunes femmes. Parce que ça a été le cas pour moi. T'as jamais eu d'expérience sexuelle. T'es sous pilule. T'as pas de libido. Donc ça veut dire que dans ta découverte de la vie amoureuse et sexuelle, t'as pas de libido. Et ça brise des couples... Ça brise des gens, enfin surtout des femmes du coup, parce qu'elles se trouvent pas normales, parce que parfois elles sont face à des mecs qui sont pas du tout respectueux et qui les traitent de frigides, de je sais pas quoi, alors que c'est la putain de pilule qui fait ça. Donc si vous nous écoutez et que vous avez des doutes, et que vous êtes sous pilule, c'est certainement ça.
Est-ce que tu peux nous citer quelques autres impacts de la pilule négatifs ? Parce que j'ai quand même envie qu'on se rende compte de ce que c'est, tu vois. Parce qu'en fait, c'est tellement facile, c'est tellement pratique. Parce que tu vois, moi, c'est vrai que toutes les filles qui ont regardé la vidéo et qui m'ont dit « Mais tu vas faire comment au niveau contraception ?» Pour répondre, chères auditrices, chers auditeurs, il y a d'autres moyens, le préservatif étant quand même le plus sûr et qui protège de bien d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est moins confortable, entre guillemets, que de prendre une pilule tous les soirs. Donc moi, j'aime aussi me rappeler qu'il n'y a pas juste l'aspect « c'est pratique », il faut aussi se rappeler ce que ça, les méfaits que ça cause, tu vois.
Bah, il y en a tellement, en fait. Il faudrait juste trouver une boîte de pilules. T'as encore tes boîtes de pilules ?
Ouais.
Bah, on va lire les effets secondaires.
Où est le mal ?
Non, mais
le mal est là.
C'est vrai, bah, on va regarder effets secondaires. Je l'ouvre, du coup.
Mais au-delà des effets secondaires, moi, je sais qu'en tout cas, je sais que, par exemple, ça... Bah, déjà, ça impacte énormément le foie.
Ouais.
Ça va venir, comme tu disais...
C'est stocké dans le
foie. Voilà, tout est stocké dans le foie. Et évidemment, on détoxe jamais le foie. La flore intestinale, ça vous la bousille pas mal.
Ouais.
Parce que, bah, parce que c'est un médicament très fort.
Donc ça crée un inconfort digestif.
Ça vous crée des problèmes digestifs. Ça empêche la bonne assimilation des nutriments.
Ouais.
Donc tout ce que vous mangez n'est pas bien assimilé à cause de cette pilule. Et alors, Roxane va nous faire le plaisir de nous lire les effets secondaires.
Attends, il faut que je le trouve. Mais par rapport au foie, ça peut être très très grave parce que ça peut même créer des lésions au foie. Alors, effet indésirable rare, caillot sanguin dans une veine. Donc c'est thrombose dans une jambe, phlébite, ou dans les poumons, embolie pulmonaire. Caillot sanguin dans une artère, crise cardiaque, AVC. Donc ça, on connaît des cas d'AVC. Hein. Si vous cherchez AVC pilule, vous allez tomber sur des cas avérés. Autre effet indésirable, allergie, rétention d'eau, humeur dépressive, modification de l'humeur, modification de la libido, maux de tête, migraine, irritation des yeux, nausées, vomissements, douleurs au ventre, diarrhée, éruption sur la peau, urticaire, petite boule sous la peau, douleur, tension des seins, écoulement mammaire, hypertrophie mammaire, perte vaginale, modification du poids, augmentation de la pression artérielle. Ensuite, absence de règles, maladie du cœur. Alors non.
Ça, c'est à l'arrêt ou c'est pendant ?
Pendant. Alors attends. Oui, alors, maladie du cœur et des vaisseaux sanguins, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, phlébite, embolie pulmonaire, maladie biologique, quantité excessive de cholestérol, triglycérides dans le sang, perturbation du fonctionnement du foie, tumeur. Mais tu sais, ça m'étonne que ce soit marqué en plus.
Ouais.
Donc, enfin, je sais quoi.
Que, ouais, ça dégoûte.
Non, mais c'est dingue. Perturbation du fonctionnement du foie, tumeur bénigne ou maligne du foie. Non, mais ça me rend ouf parce que c'est marqué en plus. Rareté des règles, voire arrêt complet. Pendant et à l'arrêt du traitement. Non, non. Adénome de l'hypophyse sécrétant de la prolactine. Vertige, modification de la vision, apparition de taches brunes. Non mais c'est pas fini en plus.
Oh là là.
Non mais ce qui est étonnant, c'est que tout est marqué. Ça veut dire que quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit que t'es folle, il a même pas lu la notice.
Ouais.
Parce que tout ce qu'on rapporte, c'est noté. Ouais. Je sais pas si c'était noté de cette manière à mon époque, mais en tout cas là c'est très clair. Je continue. Survenue ou aggravation des symptômes d'angioédème. Modification de la tolérance au glucose et de la résistance périphérique à l'insuline, survenue ou aggravation de certaines affections, maladies au long cours causant des inflammations et des saignements au niveau de l'intestin, maladie de Crohn, non mais je suis en train d'halluciner en fait, épilepsie, migraine, lupus, éruption de vésicules sur la peau pendant la grossesse. Ok, ça doit être... Donc ça veut dire que les effets durent après l'arrêt. Parce que grossesse,
ouais,
pilule.
Bah ouais.
Chorée de Sydenham, je connais pas. Maladie des nerfs avec des mouvements du corps brusques et non contrôlés. Syndrome hémolyptique et urémique. Maladie du sang provoquant des lésions rénales, jaunisse, calcul biliaire. Voilà. Et ben, j'ai envie de te dire que tout ce qu'on dit, c'est connu de la part des laboratoires, et pour autant, on continue à donner la pilule de manière systématique aux jeunes filles. Enfin, c'est quand même assez dingue.
En fait, c'est dingue parce que
moi, j'ai envie de pleurer, là.
Non, mais on devrait lire ses effets avant de la donner. On devrait signer une clause disant,
oui,
qu'on reconnaît les risques. Parce que moi, je pense que si elle m'avait lu ça à 16 ans quand je l'ai prise, j'aurais pas signé.
Moi non plus.
Mais
c'est ça.
Mais personne l'a lu. Personne ne la lit.
Non, mais personne
moi, je
ne
la lis pas.
Mais et encore pire, on ne t'en parle pas. Enfin, le médecin... Généralement, le médecin t'oblige presque à la prendre dès que t'as un certain âge. Mais jamais de la vie, il te dit ce que tu risques.
Et puis sinon, il te dira, c'est des effets secondaires, mais qui n'arrivent pas à tout le monde. Parce que, tu vois, dans l'absolu, moi, j'ai déjà lu des effets secondaires de... Enfin, j'ai déjà lu des notices de médicaments, genre...
Ouais.
Typique, quand tu prends un Doliprane, t'as des effets secondaires qui sont notés, tu les as jamais. Donc tu te dis, c'est bon. Mais là, comme tu dis,
là,
c'est ce qu'on a vécu.
C'est ce qu'on a vécu.
Moi, sous pilule, encore une fois, non, mais à l'arrêt. Oui, donc je pense que ça vaut aussi à l'arrêt.
Ah oui, bah de toute façon, moi j'ai vécu quasiment tout ça. Non, pas tout ça quand même.
Non, mais je connais des personnes qui ont vécu des thromboses, je connais des personnes qui ont vécu des phlébites, enfin...
Non mais moi, attends, à ma dernière prise de pilule, donc quand j'avais à peu près 25 ans, je me rappelle que j'arrivais plus à courir. J'avais les lèvres qui devenaient violettes, j'étais essoufflée tout le temps, donc je sais pas dans quel état était mon corps, mais je pouvais même plus monter des escaliers sans être essoufflée, donc je pense que j'étais à la limite d'un des problèmes qu'on cite ici.
Ouais.
Mais le problème, c'est que quand tu vas chez le médecin et que tu dis que t'as tout ça et que tu demandes si c'est lié à la pilule, on te dit non, alors que c'est clairement expliqué dans la notice, tu vois. Enfin bref. Voilà.
Bon, écoute, j'ai envie de dire, j'espère que cela clôt le chapitre pilule. Dans tous les cas, t'as fait un article sur le sujet,
ouais,
où tu résumes ce qui t'a aidé. Donc je le mettrai dans les notes,
ouais,
du podcast.
Je l'ai appelé kit de survie post-pilule, parce que c'est clairement de la survie.
Ouais,
enfin,
ouais.
On va pas se mentir, c'est de la survie. En tout cas, psychologiquement, c'est très très dur. Ça dépend des gens, hein, mais enfin, physiquement et psychologiquement, en vrai.
Et toi, du coup, t'étais pas allée voir de naturopathe du tout?
Alors,
même quand t'as découvert ce que c'était
Si, lors de mon dernier arrêt, j'ai vu quelqu'un, mais on tâtonnait.
Ouais.
Elle tâtonnait aussi,
ouais.
C'était pas encore très connu. Bah, d'ailleurs, la naturopathe que j'ai vue, c'est une naturopathe avec qui j'ai écrit un article. Bah, je te donnerai le lien de cet article.
Okay.
Et qui parlait déjà des problématiques de digestion, tout ça. Mais ouais, je pense que j'ai essayé trop de trucs en même temps. Je connaissais pas l'ostéopathie, et ça, c'est un truc qui m'a vachement aidée.
Ouais.
Moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je suis même allée jusqu'à ne pas manger pendant 14 jours. Hein.
Ouais.
Jeûner, du coup.
Ouais.
Et le jeûne, d'ailleurs, c'est formidable. Ça m'a beaucoup aidée. Enfin, pour vous dire à quel point j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, je vais plus manger, en fait. je vais plus manger. Et j'ai réussi, j'étais tellement déterminée, parce que c'est pas facile de, ouais, de jeûner 14 jours. Et si les gens se demandent ce que c'est tu bois de l'eau. Tu ne manges rien, tu bois de l'eau. Juste de l'eau, même pas des tisanes. Et j'étais tellement déterminée et je savais plus quoi faire que chaque jour j'avais faim, mais chaque jour je continuais parce que je me disais, mais c'est une des seules solutions que j'ai, je n'arrive pas à trouver de solution. Donc après, il y a eu l'argile, la cure d'argile en interne, ça m'a aidé, le jeûne, ça m'a aidé, le temps m'a aidé, l'ostéopathie m'a aidé, la naturopathie aussi, le fait d'être plus cool avec moi-même. Donc de faire du sport, mais pas trop, parce qu'en fait, j'étais excessive sur tout, quoi. J'avais des plannings, mais c'était mon planning post-pilule, en fait. Et quand j'ai commencé à me détendre, à faire du sport vraiment juste quand j'en avais vraiment envie, à méditer, donc j'ai commencé à télécharger des applications de méditation, à être juste plus sympa avec moi, et à me dire, écoute Roxane, là, franchement, t'en peux plus. Ok, t'as ce régime alimentaire, mais si t'as envie de manger autre chose, mange autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que l'impact était meilleur si je me permettais de craquer de temps en temps. Parce qu'en fait, c'est encore des questions d'hormones. Si quand tu manges quelque chose qui te plaît, t'as une libération d'hormones qui te fait du bien, ça serait peut-être finalement mieux que si tu l'avais pas fait en étant stressé, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
C'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Il y a des médecins qui leur disent, autorisez-vous une cigarette de temps en temps, parce que c'est ça qui va vous permettre d'y arriver sur la longueur, en fait. Moi, je dirais que pour le régime alimentaire post-pilule, et même pour tout le reste, laissez-vous des moments où vous soufflez, parce que vous allez péter les plombs. C'est déjà assez dur comme ça. Donc voilà, après, je vous encourage à aller voir le kit de survie qui sera dans la barre d'infos, je ne sais pas comment on appelle ça.
Ouais.
Dedans, je conseille des lectures, je conseille des médecins, je conseille, il y a des petites vidéos et dans les lectures il y a des livres qui traitent de naturopathie et des bases de la naturopathie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est cher, même s'il y a des mutuelles qui remboursent. Moi j'ai dépensé vraiment des milliers d'euros dans cette histoire, mais des milliers d'euros, pas forcément à raison. Donc dans les lectures il y a aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui écoutent, il y a un livre qui s'appelle Le Petit Traité de la Naturopathie. C'est la base de la naturopathie, c'est des choses que vous pouvez mettre en place déjà, même si vous n'avez pas l'argent pour consulter quelqu'un. C'est des ajustements qui permettent au métabolisme déjà d'aller mieux.
Ouais.
Y a aussi donc les livres dont je parlais tout à l'heure sur le cycle, parce qu'il faut vivre notre cycle. Et quand tu as été sous pilule toute ta vie, tu ne comprends pas ces fluctuations d'émotions. Tu redécouvres des émotions, tu ressens tout. Alors dans des effets très positifs à l'arrêt, c'est que tu ressens de nouveau des émotions et tu te dis « Ah ouais !» Enfin, et ça peut être tout. Ça peut être manger un truc qui est si bon que ça te fait presque vibrer, tu vois. Ressentir le vent sur la peau, rigoler très très fort. Tu vois, c'est plein de trucs qui sont plats sous pilule. Et c'est des trucs hyper... c'est imperceptible. Et là, je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent, qui ne l'avaient pas remarqué et qui se rendent compte de ces petites choses imperceptibles. Qui sont en fait, j'appelle ça des signaux faibles, c'est très faible, enfin c'est des trucs que tu vois quasiment pas, mais mis bout à bout c'est énorme en fait. Donc voilà.
Ouais.
Je tremble tellement ça m'énerve.
Ouais, mais c'est j'ai envie de dire, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, mais
ouais, après ça cause des dégâts, hein. Enfin ouais. Moi là j'ai 33 ans, je sais que si je suis pas en couple tout de suite, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie.
Ouais.
Je me suis sentie très mal avec mon corps, avec moi-même, avec mon visage plein d'acné pendant longtemps. Je me suis refusée des histoires d'amour. Et puis parfois j'étais mal en couple aussi parce que j'avais pas de libido. Enfin, ça m'a bousillé ma vie. Hein. Quand on dit que ça a un impact immense sur la vie. Là maintenant je vais très bien, mais voilà, j'ai 33 ans et j'ai perdu plus de 10 ans.
Donc tu vois ça vraiment comme une perte, ouais. Tu vois pas ça comme un apprentissage.
Oui et non.
Ouais.
Disons que là maintenant tout de suite, je suis hyper bien avec moi-même. Et tout mon côté militant, engagé, activiste vient de là en fait, parce que oui, c'est du coup je pense qu'on va faire une transition.
C'est super transition.
Transition vers l'autre sujet. Je me suis retrouvée du coup quand j'ai commencé à arrêter la pilule et surtout la dernière fois face à un néant. Personne ne me croyait, personne ne voulait m'aider. Quand j'avais de l'acné, on me disait « Oui, mais vous êtes une personne qui a de l'acné adulte, ce sera comme ça toute votre vie, rien à voir avec la pilule, blablabla. » Bref, je me suis retrouvée seule. Donc seule, j'ai commencé à lire des articles, des livres, regarder des documentaires. Je me suis abreuvée d'informations Et je suis arrivée de fil en aiguille parce que je m'intéressais déjà à la naturopathie, du coup à l'alimentation, puis à l'agriculture. Et là, j'ai découvert le lobby agroalimentaire, les pesticides. Je me suis rendu compte qu'on mangeait n'importe quoi. Et là, je me suis dit, ah, on est quand même dans un monde bizarre parce qu'en fait, la nourriture saine doit être labellisée et appelée bio. Et la nourriture chimique est la base. C'est quand même dingue quand tu te poses la question. Ce qui est considéré comme normal, c'est la nourriture pleine de pesticides. On est obligé d'avoir un label pour le reste. C'est dingue.
Ouais, c'est vrai.
Je dis, tout est à l'envers. Enfin, quand tu rentres dans un resto, t'es obligé de demander ce qui est bio. Parce que la base, c'est de ne pas avoir de nourriture bio.
Mais est-ce que tout ça, c'est pas une histoire de prix ? Parce qu'en fait, c'est que j'imagine que les agriculteurs... comme en effet, ce qui régit chaque entreprise, c'est de vouloir faire du profit. Mmh. Ils ont commencé à utiliser les engrais, les intrants moins chers, qui ne sont du coup pas sains, pas bons, mais qui coûtent moins cher. Du coup, c'est ce qu'on trouve majoritairement dans le supermarché. Et ceux qui se sont dit non, j'ai pas envie de produire comme ça, moi je vais produire bio, ça coûte plus cher. Du coup, ça va être labellisé. Alors je dis pas que c'est bien, mais je pense que ça a été leur réflexion.
Non, en fait, ça a été de la manipulation dès le départ, en fait.
Okay.
En fait, il y a un truc qui s'appelle l'agent orange. L'agent orange, c'est quelque chose qui était utilisé pendant la guerre. C'était des choses toxiques. Et en fait, après la guerre, les industriels se sont demandé ce qu'ils allaient en faire. Bah, ça a été transformé en pesticides. Et en fait, moi, je ne rejette pas la faute sur les agriculteurs parce qu'ils sont coincés dans un truc. Il faut aussi savoir que, ça, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est hallucinant. Les graines hein, qui poussent dans le sol sont réglementées. Dans le sens où un agriculteur qui voudrait faire pousser des graines doit choisir ses graines dans un catalogue. Et toutes les graines qui sont sauvages ou qui sont pas dans ce catalogue sont interdites. Elles sont interdites. Et pourquoi ? Parce que les graines, donc le vivant, ce qu'on mange, c'est un business. Ce sont des graines qu'on appelle les graines hybrides. Pourquoi ? Normalement, tu plantes une graine, t'as ta plante qui pousse, tu récupères les graines, tu les replantes. Et ben là, ça marche pas comme ça. C'est des graines qui ne peuvent pas être replantées, et ce qui force les agriculteurs à chaque année racheter des graines à ces semenciers, tu vois. Et ces graines, pour la plupart, fonctionnent avec des pesticides. Donc tu vois, tout est lié. Le lobby, enfin, tous les lobbies sont liés. Mais tu te rends compte que c'est quand même... Enfin, si tu es agriculteur, tu as l'interdiction, tu n'as pas le droit de planter des graines, des semences paysannes. Parce que ça doit être dans ce catalogue. Ouais. Mais ça crée un énorme problème au niveau de la biodiversité.
Ouais.
Parce que là où avant, on avait énormément d'espèces de blé, énormément de tomates, de pommes, maintenant, on se retrouve à avoir perdu des espèces à cause de cette problématique. Donc il y a un reportage qui s'appelle « La guerre des graines », si vous voulez en savoir plus, ou « Le monde selon Monsanto ». Bref, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, je suis tombée là-dedans. Mais j'ai pété les plombs, en fait.
Et c'est mondial ou c'est français ?
C'est mondial.
Ok. Il n'y a pas un pays qui plante ses graines ? En Inde, j'ai l'impression que...
Et bien justement, t'as des gens qui se rebellent et qui montent des banques de graines illégales, en fait.
Ouais.
Non mais, si tu veux regarder un truc à ce sujet, regarde Le Monde selon Monsanto. Moi, j'ai pleuré en regardant ça.
J'ai pas pleuré.
Ah non, mais après, c'est pas question de... Enfin, je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus.
Ouais, ouais.
Mais tout ça pour te dire que c'est à cause de la pilule, enfin, ou grâce, que j'ai commencé à mettre le doigt dedans et à découvrir le monde, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais si, ça l'est. Donc là, en France, t'as des associations de graines qui se retrouvent à avoir des procès parce qu'elles font que transmettre de génération à d'autres des semences paysannes, genre Cocopelli, qui vend des... T'as pas le droit de vendre des graines paysannes. Donc du coup, t'as des réseaux clandestins de graines. Mais c'est hallucinant. C'est une aberration.
Ouais, c'est une aberration.
Tout ça parce que t'as un lobby qui contrôle tout et qui veut tout contrôler aux dépens du vivant. Mmh. Tu vois ? Tout est lié. Donc moi, je suis rentrée par le lobby agroalimentaire. Tac, tac, tac. Tu fais lobby agroalimentaire. Tu tombes dans les pesticides, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est lié très intimement au lobby pharmaceutique parce que t'en as un qui nous rend malade avec la bouffe et l'autre qui nous récupère pour nous soigner, entre guillemets. Et là, j'ai pété des plombs, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a à peu près 5 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et donc on va arriver au sujet qui fait peur.
L'éléphant dans la pièce.
Et que je suis devenue du coup écolo d'abord. Et du coup j'ai mis en place tout plein de petits gestes au quotidien, mais c'était clairement pas suffisant. Et puis après militante, et puis après carrément activiste, parce que plus t'en sais, plus tu te rebelles en fait. Tu peux pas rester sans rien faire dans ce monde en fait.
Et alors ce qui est ressorti de notre conversation la dernière fois, c'est que beaucoup de gens étaient étonnés de ton bonheur apparent, malgré ces prises de conscience, malgré cet énervement, et se demandaient en fait comment tu vis avec cette réalisation, parce que tu vas y venir je pense, mais donc toutes tes recherches t'ont quand même mené à la réalisation que l'effondrement de la civilisation était proche. Comment tu vis avec ça? Et comment nous on peut vivre avec ça?
Alors, quand j'ai découvert ça, parce que bon, j'ai découvert les lobbies et tout, mais quand j'ai découvert l'effondrement, les théories de l'effondrement, j'ai déprimé, hein, j'ai fait une dépression. Mais j'ai fait une dépression tellement violente que je me rappelle, c'était le jour de l'an. En fait, je sentais que je sombrais, en fait. Psychologiquement, je sombrais parce que j'en pouvais plus, en fait, c'était trop pour moi. Et j'arrivais plus du tout à me projeter. Et j'ai toujours mon intuition, c'est ce dont je parlais au début. Mon intuition me disait, laisse-toi sombrer, en fait. Tombe très bas et tu pourras que remonter. Et je suis vraiment tombée très bas. Et c'était le jour de l'an, il y a 2-3 ans, 3 ans peut-être. Et ce jour, du 31 au 1er, j'ai pas dormi. Et j'ai senti que c'était le fond. Tu vois, je savais, tu vois, il y avait des moments où je sortais plus, je restais sous ma couette toute la journée. Et je me suis dit, ok, là c'est bon. Là t'es au fond, maintenant tu vas remonter. Et j'ai suivi un espèce de ce qu'on appelle la courbe du déni. Donc quand tu prends conscience des choses, c'est super dur. Et puis après, t'essayes de mettre en place des choses. Et puis tu retombes un peu dans un déni volontaire. Et puis après, arrive un moment où tu sais, t'as conscience des choses. Moi, j'ai mis tout en place dans ma vie pour agir. Toute ma vie, même y compris ma vie professionnelle, est dédiée au militantisme. Et donc du coup déjà je suis alignée avec moi-même. Je me sens bien parce que je sais que je suis au courant de tout ça et pour autant j'agis, tu vois, j'essaie de faire des choses. Et puis après, quand t'as conscientisé tout ça et que t'as réglé tout ce que t'avais à régler avec toi-même, t'as juste à te dire, ok, je conscientise maintenant ce qu'on me disait, ce que me disait le développement personnel il y a quelques années, l'instant présent. Et tu te dis, je savais déjà que demain, je savais pas de quoi était fait demain personnellement, parce qu'on te dit tout le temps, ouais, mais ça se trouve, tu vas sortir, tu vas te faire renverser par une voiture. Il y avait ça. Donc déjà, j'ai conscientisé ça, et j'ai conscientisé aussi que le monde entier autour de moi pouvait s'effondrer en une journée, tu vois. En une journée, on te dit, un exemple, on apprend à la télé ou à la radio que il n'y aura plus de pétrole dans une semaine. Et en une journée, t'as toutes les pompes qui sont vidées, les gens qui vont commencer à aller faire leurs courses partout. C'est un bordel en un jour, tu vois.
Et alors, parce que moi, mon père a écouté le premier épisode, il fait donc partie de ces gens qui se sont dit quand même un peu alarmistes, machin. Et il m'a dit que dans l'absolu, apparemment, il y a aujourd'hui assez de pétrole pour tenir encore de nombreuses années.
Ouais.
Moi, j'en sais rien, je suis pas encore.
Il a raison,
mais
sauf que, en fait, évidemment, tu pourrais pomper du pétrole, sauf que on a atteint la limite de possibilité de captation entre guillemets dans l'atmosphère de CO2 en fait. Si tu sors tout le pétrole, tu peux être sûr que la Terre elle crame. Hein. Évidemment, tu peux encore en sortir, mais il faut prendre la décision de plus en sortir en fait.
Ok, je vois ce que je veux dire. C'est au détriment du réchauffement climatique en fait.
Évidemment, tu vois, si tu sors ce pétrole, tu peux être sûr que là, les accords de Paris, les 2 degrés, c'est fini. Sachant qu'en plus, on est censé rester sous les 2 degrés, on est plutôt sur une trajectoire de 3 à 7 degrés, là. Et 3 à 7 degrés, c'est la fin, quoi.
Et qu'est-ce qui pourrait faire, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais si par exemple, on changeait tous les réacteurs d'avion, on remplaçait le kérosène par de l'essence, qui soit carbone neutre ou qui soit green, autant que faire se peut, est-ce que ça peut régler le problème? Parce que j'ai l'impression que la pollution de l'avion, c'est quand même...
C'est pas beaucoup, c'est 5% à peu près.
Ah ouais. C'est quoi le plus gros pourcentage de...
C'est l'agriculture.
D'accord.
C'est...
On est obligé de continuer, quoi. Enfin, on est obligé de bien manger, mais...
Non, mais alors oui et non. Tu vois, par exemple, manger de la viande, ça a un impact immense, parce qu'en fait, faut juste savoir que la nourriture qu'on produit, elle nous nourrit pas nous, elle nourrit les bêtes. en fait. Et c'est ça qui crée la déforestation, notamment en Amazonie. Et on appelle ça la déforestation importée, parce que la viande qu'on mange ici a été nourrie possiblement par des cultures qui ont été faites en Amérique. Alors j'ai pas envie de te dire des bêtises, je suis pas sûre que ce soit l'agriculture le secteur le plus émetteur, mais ça, c'est l'un émetteurs en tout cas. Il faudra qu'on retrouve les chiffres, on les mettra peut-être en barre d'infos. Mais si tu changeais tout d'un coup, en fait, même si, là, à partir de demain, on n'émettait plus du tout de CO2, zéro, la température continuerait de grimper. Parce que on est rentré dans un emballement. Donc ça serait certes moins grave que ce qui est en train de se passer, parce que pour l'instant, personne ne fait rien, hein, clairement. Les accords de Paris ne sont pas du tout suivis. Hein.
Après, c'est con, hein. Moi je te dis, je suis là pour toujours être un peu l'avocat du diable, parce que c'est ma nature d'essayer de pousser toujours. Il y a quand même beaucoup de gens qui deviennent végétariens. Alors, petite parenthèse dans la parenthèse, j'aimerais quand même déculpabiliser les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas adopter un mode de vie 100% végétarien ou végétalien. Mon cas, parce que mes intestins ne me permettent vraiment pas d'adopter un mode de vie végétarien, même si on peut tous réduire notre consommation de viande, et je l'ai vraiment extrêmement réduite. Voilà, aparté. Tout ça pour dire, j'ai l'impression que les gens deviennent quand même... Enfin, il y a quand même une réalité, non? Enfin, moi, je vois même... Enfin, je trouve ça trop cool. Il y a énormément d'acteurs, d'actrices qui deviennent végétariens, voire véganes. Du coup, leur communauté, ils sont vachement sensibilisés. La nouvelle génération, j'ai l'impression, l'est beaucoup plus. J'ai pas les chiffres.
Ouais.
Mais ça fait pas une différence, quand même.
Non. Putain, oui et non. Alors, justement, je vais rebondir sur ton aparté. Faut que vous sachiez, là, pour tous les gens qui nous écoutent, je juge absolument pas les comportements individuels. Quand tu commences à partir sur ce sujet, du coup, là je pense qu'on va... Faut pas qu'on parte là-dessus, en fait. On a tendance, et c'est ce que les gouvernements et les multinationales cherchent chez nous, on a tendance à se pointer du doigt et à faire attention aux comportements individuels, alors même que si tout le monde changeait, ça changerait rien. Enfin, ça changerait de manière minime ce qui est en train de se passer. Les principaux pollueurs sont les gouvernements, les multinationales, enfin les décideurs en tout genre. C'est l'industrie qui pollue.
L'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante.
Alors pas exactement.
Ah ouais ?
Non, pas exactement. Ça, c'est un truc qui est sorti dans un article et finalement, y a pas trop de preuves. Donc c'est super polluant, mais c'est pas forcément la deuxième... industrie la plus polluante. Il n'y a pas de source, en fait. C'est, moi, quand je suis tombée sur cette info, j'ai fouillé, tu vois, je voulais savoir. Et en fait, il n'y a pas de source. C'est un truc qui est sorti comme ça, qui a été récupéré, et puis tout le monde le dit.
Mais t'as vu le documentaire de True Cost ?
Je l'ai pas vu.
Ok, je te conseille de voir The True Cost of Fashion, parce que, en effet, pareil, c'est comme l'agriculture, on s'en fout de savoir si c'est le premier, le deuxième, machin, ça pollue.
Ah oui, c'est une
catastrophe. Et c'est vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que. Moi, je, si jamais vous avez lu les infographies qui sont sur ma page Insta mode responsable, où je partage les 7 piliers de la mode responsable, en fait, pour produire un t-shirt en coton, il faut l'équivalent de 27 bains,
ouais,
à peu près 1300 litres d'eau. Donc, on parle d'un t-shirt en coton. Je vous laisse imaginer combien de t-shirts en coton il y a actuellement dans toutes les entreprises et les marques de fast fashion qu'on ne citera pas. Beaucoup de zzzz. mais c'est moi, ça m'a déprimée.
Ouais,
et c'est pour ça que, enfin,
je pense
quand même, tu vois, moi, alors je sais, hein, je suis là pour faire chier et je suis peut-être dans la phase de déni, mais moi je crois encore que si jamais on change tous notre mode de comportement alimentaire, textile, de transport, et qu'en gros la civilisation actuelle telle qu'elle existe en effet s'effondre pour en faire naître une autre. Beaucoup plus responsable.
Ah oui.
We have a future.
Ah non, mais attends.
Parce que j'aimerais quand même que on finisse ces deux épisodes pas en mode bah de façon autant que la vie s'arrête aujourd'hui, tu vois.
Ah mais non, mais moi j'ai jamais dit que c'était la fin du monde. Je me rappelle, j'étais même corrigée, je t'ai pas dit c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Simplement, on vivra plus comme on vit aujourd'hui, tu vois, avec des ordis, des téléphones, beaucoup d'énergie. En fait, là on vit de manière illimitée. Il va y avoir des restrictions, tu vois. Après on pourra vivre différemment, mais la température va grimper, les canicules vont être de plus en plus fréquentes, on va commencer à avoir des ruptures énergétiques, c'est des choses qui vont arriver. Donc, je parle pas forcément d'effondrement. De toute façon, je t'avais dit, moi, c'est pas question que j'y crois ou j'y crois pas, je sais juste qu'il va y avoir des gros changements. Est-ce qu'il y aura un effondrement global? Je sais pas. Mais tout ça, ça va arriver. On le voit, hein. Tous les ans, les canicules sont de plus en plus fréquentes. Là, hier, il faisait 20 degrés, on est presque en novembre.
Attends, quand même, le mois d'octobre n'a pas été hyper sympathique au niveau de temps.
Il n'a pas été hyper sympathique.
Mais t'as raison, c'est pas normal qu'il fasse 20.
Il y a quand même des pics. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était quand même assez régulier, les températures, c'était pas comme ça. Donc, il va se passer des choses. Après, J'espère qu'on s'adaptera. Mais il va y avoir des immenses problématiques. Il va y avoir des milliers, des milliards de personnes qui vont devoir changer de lieu sur Terre parce qu'ils pourront plus, ils auront plus d'eau, ils pourront plus cultiver. Il y a peut-être les glaces du permafrost qui vont fondre à un tel point qu'il y a des virus qui sont coincés dedans depuis des millions d'années qui vont ressortir. Enfin, t'as des bulles de... merde, comment on appelle ce gaz ? Bon, t'as des bulles de méthane, je crois, au pôle qui sont en train d'éclater, et c'est un gaz qui est vachement plus réchauffant que le CO2. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Après, je dis pas qu'on va tous disparaître. Je dis simplement que ce sera plus comme maintenant. Tu vois, quand j'entends des gens qui me disent « Oui, dans 10 ans, 15 ans, machin, on aura des voitures volantes. » Ah, mais t'es loin de... Non. Non, non, ce sera le low-tech, la base. Le low-tech, c'est les technologies qui n'ont pas forcément besoin d'énergie pour fonctionner. C'est ça qui va être la norme, en fait, parce qu'on n'aura pas le choix. Donc, c'est simple. On est dans un moment où, soit par choix, on change tout, soit à un moment... on n'aura plus le choix et on devra tout changer. Le truc le plus confortable, c'est de changer par choix. Maintenant, c'est pas ce qui se passe. Enfin, quand tu lis les accords de Paris, déjà juste ça. Les accords de Paris. T'as des pays qui signent, c'est ce qu'on appelle de la soft law. Le droit mou, c'est que c'est non contraignant. Ils signent quelque chose et en fait, ils font ce qu'ils veulent.
Ouais.
T'as pas de loi qui oblige les pays ou les industries à faire attention. Ça n'existe pas. Donc à un moment, on est dans une vaste blague. Et tous ces dirigeants, tout ça, en attendant, ils se font construire leur petite maison autosuffisante un peu partout dans le monde, comme s'ils avaient envie de fuir. Donc tu vois, c'est des signaux qui sont là. Donc je veux bien qu'on dise que je suis alarmiste, mais moi, je me trouve pas alarmiste. J'ai des faits, je suis en contact avec des ONG qui me transmettent des infos, j'ai toutes ces infos, et je les transmet. Donc à un moment, il faut pas s'en prendre à moi, parce qu'il y a des gens qui me disent que je suis complètement alarmiste. Demandez-vous si c'est moi qui vous dérange ou si c'est des infos que je transmets. Je pense que c'est plutôt les infos. Et c'est des infos factuelles.
Mmh.
Et d'ailleurs, parce que tu me disais qu'il faudrait quand même qu'on apporte des solutions. Moi, je ne vais pas apporter des solutions parce que ça va en fait... Je vais rester sur la ligne édito de mon média qui est de vous donner des outils, en fait. Moi, je ne vais pas vous dire « faut faire ». Si t'es pas écolo, ça se trouve... Enfin, il y a des gens qui sont pas écolo parce que leur principale préoccupation, c'est savoir s'ils vont manger demain, tu vois. Donc, je ne juge personne. J'ai jugé pendant un moment. Et j'ai arrêté très vite parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et que surtout, les comportements individuels étaient symptomatiques d'un problème bien plus large et qui se trouve ailleurs. Mais donc, du coup, dans les outils, moi, je dirais que la première chose à faire, si vous voulez agir, c'est de vous informer. L'information, c'est la base. Et vous informer, je ne vous dirais pas de vous abonner à un média ou autre, je vous dirais de vous abonner à une seule chose, parce que je vais faire les choses de manière très simple. Abonnez-vous à la newsletter du réseau Action Climat. Le réseau Action Climat, c'est un réseau qui englobe plusieurs ONG françaises, que ce soit dans le social ou dans l'écologie. Et qui donc produit des newsletters et à peu près toutes les semaines, je crois, ou un petit peu plus souvent, je sais plus, ça dépend des événements qu'il y a. Et dedans, vous allez juste avoir une restitution de ce qui se passe réellement, de ce qu'annonce le gouvernement, de ce qui est réellement fait, de ce qui est proposé par les ONG, de ce qui est retenu. Et là, du coup, vous avez une vision claire de ce qui se passe. Et à partir de ça, en fait, c'est comme ça que vous pouvez agir. Parce que si je vous donne juste des moyens d'avoir un impact positif, voilà, le zéro déchet, le machin, le truc, ça va rester en surface.
Mmh.
Et quand vous allez vouloir en parler à des gens, bah, ils vont dire « mais pourquoi ?» Bah, tu sauras pas. Renseignez-vous sur la base du problème, et le reste, ça viendra en fait. Quand vous connaîtrez tout ce qui se passe, vous aurez envie par vous-même d'aller rechercher des manières d'agir, et ça se fera tout seul, selon votre contexte. Parce que là, je vais donner des idées... Et ça ne va pas convenir à tout le monde. Renseignez-vous, informez-vous. Ça, c'est de l'information objective, le réseau Action Climat. Et puis après, peut-être que dans ce réseau, il y a des ONG qui vous plairont. Adhérez à ces ONG, faites des opérations avec. Et surtout, informez-vous. Et alors, mettez-vous dans la posture de quelqu'un, quelqu'un d'humble qui se dit « Ok, j'aime pas les infos que j'entends là, mais je suis prêt ou prête à me déconstruire. » Et dans la déconstruction, il y a un truc hyper important. Donc, t'as tout ce qui est écolo. Et il faut aussi se dire, on en a parlé la dernière fois, des privilèges, que l'écologie, l'écologie la plus importante est l'écologie décoloniale.
Mmh.
Et ça, c'est... donc du coup, je voulais en parler avec Jérémy, mais on en parlera une autre fois. Ça, en fait, c'est un sujet hyper important dans le sens où les personnes les plus impactées par le réchauffement par le changement climatique sont les personnes racisées. Donc pour ça, ça va irriter des gens. Je sais que ça irrite des gens parce que ça rentre dans le cadre de l'antiracisme et c'est ce qu'on appelle la white fragility. Quand on est privilégié,
on n'aime pas se rappeler qu'on a des privilèges.
On n'aime pas se rappeler qu'on a des privilèges parce que peut-être qu'on a peur de les perdre. Et puis ça nous irrite parce que peut-être que... Enfin, on vit dans un système qui est raciste. Même qu'on le veuille ou non et qu'on le conscientise ou non, on vit dans un système qui est raciste. Donc on a nous-mêmes des comportements racistes. Et ça nous irrite, en fait, de découvrir tout ça. Mais c'est important. C'est pour ça que je vous dis, soyez humbles. Soyez prêts à vous déconstruire. Et allez voir les comptes de Jérémy. Donc c'est Jérémy de BCN. Canel, c'est Canobis. Et Annabelle, c'est AIM sur Instagram. C'est les trois comptes qui ont vraiment lancé le sujet de l'écologie décoloniale. Et d'ailleurs, ils vont sortir un reportage dont le teaser est déjà disponible sur la chaîne de Annabelle, donc AIM, et qui sortira à la fin de l'année ou au début 2021. Et ça, c'est essentiel parce que, en fait, ça, tu sais, je parle souvent de grille de lecture qu'il faut élargir. Et ça, en fait, ça t'explose ta grille de lecture. Et d'ailleurs, il y a eu des embrouilles dans le milieu écolo suite à ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui pratiquaient l'écologie de loisirs. Tu sais, ils avaient une vie qui allait très bien, ils avaient besoin peut-être, pas forcément d'un passe-temps, mais voilà, d'un truc qui faisait que ça
les rendait... Ils ont bonne conscience.
Ouais, ils ont bonne conscience. Non, je pense que parfois, ça allait quand même un peu plus loin que ça. Mais tu vois, c'était leur action, tu vois. Ils se jetaient parfois à corps perdu là-dedans, mais ils étaient coincés dans le petit milieu bobo, écolo, blanc... et ils allaient rarement plus loin. Et en fait, quand ce sujet est arrivé, ça a créé des embrouilles parce que t'as plein de gens qui ont refusé ce sujet, qui n'ont pas voulu admettre qu'il y avait un problème. Et là, ça bouge beaucoup, justement, grâce aux trois personnes que j'ai citées, parce que c'est essentiel de se rendre compte qu'on a des privilèges en tant que blanc, en tant qu'occidentaux, et que c'est quelque chose que Greta dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que, en gros, on sacrifie notre monde et certaines parties du monde en particulier pour que nous, occidentaux, on puisse vivre dans un luxe qui est franchement, la plupart du temps, même pas nécessaire, quoi. Enfin, t'as plein de gens qui surconsomment. Enfin, et ça a un impact. Mmh. Ça a un impact sur des gens. Là, tout de suite, maintenant, t'as déjà des gens qui vivent, qui sont réfugiés climatiques. Qui doivent quitter leurs îles parce que l'eau monte, c'est des choses qui arrivent tout de suite. Parce que tu sais, t'as des îles qui sont encore au-dessus du niveau de la mer, mais quand la mer monte trop, la mer s'infiltre dans les nappes phréatiques et sale les nappes phréatiques qui servent d'eau potable pour ces populations. Enfin là, en ce moment, il se passe plein de trucs. Donc, humilité, acceptation de la déconstruction. Après, n'ayez pas peur de parler autour de vous de ces sujets parce que en fait moi-même tu vois j'ai demandé à mes potes est-ce que j'ai déjà eu des comportements racistes et on m'a dit oui et on m'a dit ce que c'était et sachez juste entendre écoutez les gens qui vous disent ça ne soyez pas dans un déni, écoutez les gens qui vous reprochent des choses et après votre réponse c'est de dire ok je t'ai entendu, je vais faire un effort. Tu vois, il faut pas qu'on soit dans le conflit, il faut qu'on se déconstruise et il faut qu'on
apprenne, ouais.
Qu'on apprenne.
Je vous conseille aussi d'écouter, si jamais c'est pas déjà fait, l'épisode que j'ai fait avec Rokhaya Diallo.
Ah ouais.
Qui éduque. Enfin, en fait, c'est ça que j'ai trouvé cool au final. Enfin, j'aime même pas dire ça parce que ce qui a poussé le mouvement Black Lives Matter est terrible. Mais j'espère que ça aura au moins permis de déclencher une réelle prise de conscience. Chez des personnes pour qui c'était... Même pour moi, tu vois, j'avais conscience qu'on vivait dans un système raciste, mais j'avais pas conscience de la violence, en fait, que subissaient les personnes racisées au quotidien. Et violence qu'on pouvait leur faire subir. Et donc, en fait, c'est uniquement ces personnes-là qui peuvent nous dire, en fait.
Évidemment.
Donc, en effet, faut les écouter et leur donner la parole.
Mais tu sais, parfois, quand j'en parle, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, mais non, c'est de la victimisation. T'es blanc ou t'es noir ?» ou t'es racisé, je suis blanc. Tu l'as jamais vécu, en fait. Tu peux même pas imaginer. Tu peux pas imaginer. Moi, la dernière fois, dans le dernier épisode, je te disais, je l'ai vu parce que j'ai vécu en banlieue et que j'avais plein de copains racisés et que je le voyais. Mais même ça, c'est minime, tu vois, parce que c'est les seuls moments où j'étais là et je l'ai jamais ressenti, tu vois. On peut pas savoir. Donc, la seule chose à faire, c'est d'écouter. Et c'est de leur donner la parole, surtout. Tu vois, là j'en parle, parce que j'en ai parlé à Jérémy. Je lui ai dit, Jérémy, voilà, je vais parler de ça. Donc on s'est mis d'accord sur les choses à citer, etc. Mais le but, c'est pas que moi j'en parle. C'est que ces personnes en parlent. Qu'on leur donne la parole. Tu vois, si, c'est comme cet été, je crois que, c'était cet été. J'ai vu un débat sur je sais plus quelle chaîne. Le débat, c'était le féminisme. Et il y avait 5 hommes autour de la table. Et j'étais là, mais... Vous êtes sérieux? C'est comme si on parlait d'avortement ou de je sais pas quoi d'autre, mais et qu'il y a que des hommes. Et ben là c'est pareil. Tu vois, t'as des plateaux télé où on parle des femmes voilées. T'as pas une seule femme voilée.
Ouais.
Donc à un moment, arrêtons de parler pour les gens.
Donnons-leur la parole.
Donnons-leur la parole. Voilà.
Trop cool. Bon bah écoute Roxane, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, ouais. Il y aura peut-être un numéro 3 avec Jérémy. Qui pourra nous en parler aussi, je pense, très bien. J'espère que, pour celles et ceux qui sont encore là, l'épisode vous a quand même informé. J'allais dire plus, mais en fait, c'est même pas le sujet. On espère qu'on a pu vous donner des clés, que ce soit pour la pilule ou que ce soit pour la planète. Je pense quand même que ça peut ne pas faire de mal si on essaie tous de mieux consommer et de moins polluer. Hein. Ça ne fera pas de mal. Et je vous dis, Roxane, à très vite.
À très vite.
Pour celles et ceux qui la suivaient pas encore, vous pouvez aller la suivre sur son compte Instagram, @dearlobbies. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Dearlobbies si jamais vous pensez arrêter la pilule. Et je mettrai dans les notes du podcast tous les livres et ressources qu'on a cités pour que vous puissiez chacun et chacune continuer ce parcours éducatif. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode directement sur Instagram.
Je vais rajouter un dernier truc.
Vas-y.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les petits gestes, donc ce qu'on appelle les petits gestes, ça a peu d'impact au global, mais ça a beaucoup d'impact sur le plan personnel. Parce que ça nous permet d'être alignés et de nous sentir bien. Donc c'est important pour nous. Maintenant, il faut juste garder à l'esprit que c'est pas ce qu'il va falloir changer en priorité. Voilà, notre impact personnel est moindre par rapport à l'impact des industries.
Merci Roxane. Bon, bah écoute,
merci.
Belle soirée et je vous embrasse tous très fort. On se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bisous.
Au revoir.
J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode avec Roxane. Je sais que ce ne sont pas forcément des échanges faciles à entendre, mais je pense que sensibiliser à tous les sujets que l'on a abordés dans ces deux épisodes est vraiment important. Si ces épisodes vous ont plu et vous ont informé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @dearlobbies et @mybetterself. Toutes les ressources que l'on a citées seront dans la barre d'infos de cet épisode, juste en dessous du petit bouton s'abonner, si vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de vous abonner au podcast. Je vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.